Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, et cette semaine nous vous proposons de traverser toutes les crises, trois crises, hein, et de trouver les bonnes clés avec pour intervenante au micro que je salue tout de suite, le docteur Isabelle Morel.
Bonjour
docteur, vous êtes enseignante en théologie, maître de conférence à l'Institut catholique de Paris, directrice adjointe à l'Institut supérieur de pastorale catéchétique et responsable, c'est beaucoup de responsabilités, hein, mais je vais nommer aussi cette autre responsabilité que vous avez depuis plus de 20 ans, du service de formation du diocèse de Besançon. Vous traitez dans ce pèlerinage du rosaire trois conférences, de trois thèmes et surtout de trois crises. Comme toutes les crises, il faut une clé pour sortir, pour traverser les crises. Cette crise de l'écologie, quel est l'impact, quel est le défi, quel est au fond l'enjeu pour sortir de cette grande crise?
Non. La crise de l'écologie, il n'y a plus besoin de la présenter en fait, cette crise. On en parle presque au quotidien, au point que ça devient presque une banalité. Et c'est là le danger en fait, parce que à en parler trop, finalement on a du mal à prendre la mesure de l'impact que ça va avoir. Mais il suffit de regarder quelques petits détails et de les lier. Mon pare-brise l'été, il y a 20 ans, il était criblé d'impact avec les insectes qui venaient s'écraser dessus. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Voilà, le nombre des oiseaux a diminué de 50% dans les campagnes. Enfin, voilà, il y a des chiffres très impressionnants qui se font jour aujourd'hui. Et tout ça, quand on le regarde et qu'on le met bout à bout, ça constitue vraiment une emprise de l'homme. Certains spécialistes parlent même de l'anthropocène. Anthropos, c'est l'homme. C'est-à-dire une période géologique, hein, qu'on arrive à lire dans la pierre et qui, en fait, marque l'impact de l'homme sur la nature, sur les minéraux, sur les végétaux. Ça n'a jamais été à ce point. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que l'homme marque à ce point ce qui l'entoure et jusqu'où on va aller? C'est là qu'on commence à se dire qu'il y a un malaise lorsqu'on en arrive à l'extrême. Et donc ce malaise, quand on cherche un peu du côté de ce qui concerne la foi, eh bien on arrive à trouver des éléments qui viennent y répondre. Le pape François, lui, parle de crise spirituelle, par exemple, dans sa très belle encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. Il va parler d'une crise spirituelle, c'est-à-dire une crise dans l'esprit. Il y a quelque chose de vicié dans notre manière de comprendre le rapport à la terre. Voilà. Et ça, c'est important de le regarder aujourd'hui. Alors on peut aussi regarder qu'est-ce qui vient interroger, y compris théologiquement. La théologie, c'est un regard sur Dieu. C'est une manière de dire Dieu. C'est une manière de le concevoir, de lui parler. Voilà. Et donc, théologiquement, on peut interroger l'image de Dieu qui est là derrière. Et si on regarde, par exemple, les récits de la création, la manière dont on les a présentés, la manière dont on les a compris, eh bien, on a une clé de compréhension ici. Quand on regarde dans les catéchismes, par exemple, les documents catéchétiques que les enfants utilisaient, ou alors les représentations iconographiques que nous avions dans nos églises ou dans un certain nombre de documents, eh bien, on s'aperçoit que le sommet de la création, c'est l'homme. Et ce que l'on retient graphiquement, ce que l'on dessine, ce que les artistes vont représenter, ce sont les six premiers jours de la création.
Donc là, on est dans l'œuvre de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu, dans voilà. La contemplation de cette beauté.
Exactement.
Du Créateur.
On va prendre le temps de décrire le premier jour, deuxième jour, troisième, etc., jusqu'au sixième, où il crée l'homme. Et il lui donne la terre, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, pour qu'il la cultive, pour qu'il la soumette, pour qu'il puisse en être le maître des oiseaux, de la terre.
Et au fond, en prendre soin.
Alors ça, c'est une lecture déjà bienveillante, mais même le fait de concevoir l'homme comme un jardinier, c'est ce qu'on a aussi dans le livre de la Genèse, ça tient aussi de l'image qui est celle de celui qui en est responsable, mais au sens de maître. C'est-à-dire le jardinier, c'est lui qui décide de ce qu'il fait dans son jardin. Vous voyez bien. Alors c'est déjà plus bienveillant que le Seigneur qui domine, parce qu'on a le verbe dominer dans le chapitre, dans les premiers chapitres aussi, mais ça reste quand même celui qui est maître. Or, il y a un théologien qui s'appelle Jürgen Moltmann, c'est un théologien protestant, qui fait une lecture écologique de la création. Et c'est très intéressant parce qu'il dit ceci, regardons bien la lecture du livre de la Genèse jusqu'au bout de la création. En fait, que fait le Seigneur le septième jour ? Nous, dans notre imaginaire habituel, on dit bah, « il se repose ». Oui, effectivement, c'est ce qu'il y a écrit. Il se repose, mais il n'y a pas que ça qui est écrit. Il y a écrit aussi « il se reposa », tout ce qu'il avait fait, et « il bénit le septième jour ». Il bénit le septième jour et tout ce qu'il avait fait. Autrement dit, si vous regardez bien, c'est lui le dernier acteur. C'est lui le dernier à faire quelque chose. C'est lui le sommet de la création. C'est plus l'homme. Et Jürgen Moltmann fait aussi cette lecture-là qui est vraiment fabuleuse. Il dit l'homme est le dernier à être créé, mais c'est aussi le plus dépendant. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas vivre sans les animaux, sans les poissons, sans l'air et l'eau, sans le jour et la lumière. Par contre, les autres, bah si, ils peuvent vivre sans l'homme. Voilà. C'est le dernier de la création, mais c'est aussi le plus dépendant. Là, tout de suite, on est très loin de la soumission comprise comme une domination qui va jusqu'à l'exploitation.
Donc là, c'est le grand chef-d'œuvre de Dieu avec cette créature qui aura besoin de son créateur, hein, qui devra accepter cette dépendance à ce créateur.
Et là, ça veut dire que l'homme, même s'il est créé à l'image de Dieu, c'est pas qu'il a à se prendre pour Dieu, vous voyez. Être à l'image de Dieu, ça veut dire...
Et ne pas se prendre pour son créateur.
Exactement. C'est pas devenir le créateur soi-même, mais être au service de ce qui a été créé, puisque... Tout le monde est créature. Le ciel, les oiseaux, les animaux, l'homme, tout le monde est créature. Quand je dis l'homme, c'est l'humain, hein, homme et femme, tous les deux en même temps, évidemment.
Et attention, cet humain, cette créature, de ne pas devenir dominant sur celui qui est au départ le créateur de
Exactement.
Cette beauté, de grands chefs-d'œuvre.
Alors vous voyez que là, on a une clé dans la transmission, c'est notre manière de lire la Bible. Si on lit, par exemple, ce premier passage de la Genèse comme une domination au sens d'être maître et de pouvoir faire finalement ce qu'on veut de cette terre, alors on voit bien que ça nous mène dans une impasse. Le pape François dit « tout est lié ». Et quand il dit « tout est lié », c'est à la fois notre rapport à nous-mêmes, aux autres, à la terre et à Dieu lui-même. Quand quelque chose entre ces quatre éléments est vicié, alors ça nous mène dans une impasse.
Mauvaise circulation, un mouvement qui ne circule plus entre le créateur, la création.
Nous-mêmes, et puis les autres. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose de vicié, d'abîmé, on va dire, entre ces quatre éléments-là, nous-mêmes, la création, les autres et le Seigneur. Alors il y a quelque chose qui peut être cassé et qui va abîmer le reste.
Comment réparer ?
Eh bien alors, il s'agit de changer son regard. Changer son regard pour arriver à voir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien et se mettre à sa juste place.
Convertir son regard ?
Oui, c'est ça. Donc, quand j'étais animatrice MEJ, le mouvement Eucharistie des jeunes, on faisait fabriquer aux enfants des lunettes 3B. Beau, bien, bon. Ben voilà, il faut apprendre à faire ça pour avoir une juste place, y compris vis-à-vis de la création qui nous est confiée, au sens du service cette fois-ci.
C'est un vrai déplacement intérieur.
Bah oui,
un mouvement
autant extérieur parce qu'il y a des choses à faire évidemment dans notre manière de vivre au quotidien, mais c'est d'abord, comme disait le pape François, une conversion spirituelle. C'est à l'intérieur de nous aussi qu'il y a à envisager les choses autrement, accepter peut-être que notre manière de consommer soit remise en question. Bah oui, dans la société actuelle, on le vit comme une perte de liberté. Perte d'autonomie, parce que nous avons vécu dans l'utopie du toujours plus et que la science ou la technique allait pouvoir trouver des solutions. Eh ben non, on arrive dans une impasse. Donc si on veut à un certain moment rétablir une forme d'équilibre, alors il faut convertir le regard pour accepter d'être à sa juste place.
Au fond, c'est la conversion du monde et des hommes et des cœurs que
oui,
vous décrivez.
Et ça commence par soi, par moi. Ça commence par chacun. Oui.
Vous, en tant que théologienne, vous avez ce regard d'espérance sur ce monde quelque peu cassé et un peu abîmé,
Alors,
et en crise, et en grande crise, parmi toutes les crises.
Oui, si nous, les chrétiens, nous perdons ce regard-là, alors on perd l'essentiel. Donc, vous voyez, Jean-Louis Soulty, un de mes collègues théologiens, disait « La crise est une chance pour la foi. en utilisant le mot crise, en son sens étymologique, crisis en grec, c'est le moment en médecine où tout est possible. Le pire comme le meilleur. Ben, on en est là, voilà. Tout est possible, le pire comme le meilleur, et moi je crois au meilleur.
Merci docteur Isabelle Morel, c'est le docteur qui rassure ses patients, c'est le docteur qui rassure peut-être aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine nos amis auditeurs qui vont pouvoir donc traverser avec vous et noter les bonnes clés pour traverser ces moments de crise, ces moments d'étape. Docteur Morel, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.
Avec plaisir.
Au revoir.